Merci Seigneur, merci pour chaque personne qui est ici. Merci qu'on peut venir librement dans ta présence. On peut venir, Seigneur, pour que tu guérisses nos cœurs, pour que tu nous instruises, pour que tu nous guides, pour que tu nous reprennes, pour que tu nous corriges, pour que tu nous encourages. Mais Seigneur, surtout, on vient ici pour te bénir. Que nos louanges aient été pour toi un parfum agréable. Et maintenant, Seigneur, bénis ta parole à chacun de nos cœurs et glorifie ton nom. Tu es digne de toute gloire, Seigneur. Take over, Holy Spirit. Toute la place, Esprit Saint. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui produit et qu'est-ce que produit la crainte de l'Éternel? Qu'est-ce qui vient produire la crainte de l'Éternel en nous? Et qu'est-ce que la crainte de l'Éternel produit en nous, au travers de nous? Quand on vient à l'Église, on vient à l'Église pourquoi? Qu'on vient rencontrer les frères et les sœurs? Ou est-ce qu'on vient rencontrer Dieu, le Créateur de toutes choses? Parce que la parole commence en disant « Au commencement, Dieu créa. » Qu'est-ce qui a créé Dieu? Toutes choses. Comment qu'il les a créés? Premièrement, par la puissance de son intelligence. Parce que quand on regarde la création, il faut reconnaître qu'il y a une intelligence supérieure à la nôtre qui a tout mis ça en branle. Je regarde juste le corps humain, là. Quelqu'un vient trop proche de mon œil, j'ai pas besoin de penser de fermer mon œil pour le protéger, ça se fait dans un clin d'œil, comme le clin d'œil dans lequel on va être changé. Le corps a une capacité de s'auto-guérir, mais nous autres, on dépasse les limites de Dieu, ça fait qu'il y a de la misère à s'auto-guérir. Dieu a tout créé selon son ordre, selon son plan, selon sa volonté. Lui a décidé qu'est-ce qui venait en premier, qu'est-ce qui venait en dernier. Son ordre est parfait. Tout ce qu'il fait est parfait. Chaque chose subséquente en rapport à ce qui la précédait. Dieu a dit « Lumière soit ». Dieu est lumière, ça fait que la lumière est sortie de lui pour être et effacer les ténèbres. Si on est dans la forêt puis qu'on allume une allumette, si on va dans le Grand Nord, là, où il n'y a pas de lumière de ville, là, si on allume une allumette, je suis certaine qu'un hibou à 1 000 peut voir l'allumette. Ça... Et c'est à ça qu'on est appelé. Notre frère l'a dit, on ne met pas la lumière en dessous, on met la lumière sur le dessus. Ça fait 2000 ans que le diable met tous ses efforts à éteindre la lumière. Mais elle brille encore. Peut-être pas aussi fort qu'elle pourrait briller, mais Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Vous allez m'entendre citer des paroles. C'est la parole. Il n'y a pas de référence parce que moi, je ne suis pas pasteur Claude. Je ne connais pas les références, mais il est écrit, Jésus l'a dit, puis moi, je l'ai pris comme « Ça, c'est pour moi, Seigneur, merci. » Pourquoi Dieu a créé la lumière en premier? Parce qu'on ne peut pas voir sans lumière. Et puis parce que rien ne peut vivre ni croître sans lumière. Une plante, là, qui n'a pas de lumière, qui nous a parlé d'une plante quand ils ont ouvert les rideaux? Il y a quelqu'un, en tout cas, je ne me souviens pas. Moi, je vis dans un sous-sol, puis mes plantes ont bien de la misère. Puis tous les avocats que je bichonnais sont morts. Puis là, je pleurais, je disais, Seigneur, j'aimerais ça avoir de la vie autre que la mienne dans cet appartement-là. Je sais que tu es là, mais je veux dire quelque chose que je peux voir, là, croître. J'ai pris encore des noyaux d'avocats parce que j'ai une propensité pour les avocats. Je les aime. C'est une belle plante. Puis c'est un bon fruit. Pour ceux qui aiment ça. Puis là, je les ai mis dans un plat avec un essuie-tout, puis je gardais ça mouillé, puis je voyais rien, je voyais rien, je voyais rien. Ouh, tout d'un coup, ça craque. Je dis, oh, ça commence, le processus commence. Puis là, cette semaine, non, il y a 2 semaines, je les ai mis en terre, ceux qui avaient une racine qui sortait. Puis ça dit, gardez-la bien humide. Les avocats, ça aime l'eau. Fait que j'ai tout fait ça. Hier, j'ai vu une petite pousse sortir d'en haut. J'ai dit, oh, je suis contente que tu es là. C'est comme, ah, oh, ça peut vivre ici. Alors moi aussi. Dans la préparation que Dieu fait, il pourvoit pour tout ce qui va suivre. Quand il a créé la lumière, il pourvoyait pour les autres choses qu'il allait créer. Le deuxième jour, ça a été la terre, la mer, la végétation. Ça fait que tout ça a besoin de lumière. Après ça, le quatrième jour, c'est les astres lumineux. Eux autres avaient comme travail ou comme œuvre d'être des signes pour les temps, pour les voyageurs, la direction, pour les saisons. Le cinquième jour, c'est toutes les créatures vivantes, tout ce qui meut sur la terre. Les bibites, les petits insectes là, qu'on aime plus ou moins, les plus gros, et même les maringouins ont un but. Dieu le sait. Les serpents, toutes, les oiseaux, les paissons, le bétail. Mais le sixième jour, oh, Dieu fait quelque chose de spécial. Le sixième jour a été mis à part pour une créature à part. Toutes les autres créatures ont de l'instinct. Un oiseau n'a pas besoin d'aller chercher une map pour savoir comment se rendre en Floride du Québec. Tout est dans leur ADN pour que ça se fasse par instinct. Combien qu'il faut qu'ils mangent avant de partir? Quand la date précise où il faut qu'ils partent, quand ils reviennent. Puis le cerveau d'un oiseau, là, ça peut être aussi petit que ça, dépendant de la grosseur de l'oiseau, ou aussi gros que ça. Mais toute l'information qui est mise dans ce cerveau-là est équivalent à un tableau de bord d'un Boeing 747. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le tableau de bord, là, mais il y a des aiguilles, puis des cadrans, puis des pitons, puis des leviers, puis des... C'est à rendre fou. Fait que si quelqu'un vous dit que vous avez une cervelle d'oiseau, dites « Merci! » Hein? Dans Jean 2,10, quelqu'un a voulu complimenter l'époux et l'épouse par rapport au miracle que Jésus a fait. Lui, il ne savait pas que c'était un miracle. Mais il a dit, tout le monde, là, il garde, il donne le meilleur vin là, tout de suite en partant. Parce qu'ils savent que, chemin faisant, le monde va devenir moins... alerte, merci. Moins alerte pour reconnaître que le vin est de moins de qualité. Mais vous, vous avez gardé le meilleur pour la fin. Dieu garde le meilleur pour la fin pour nous autres aussi. Mais il a, dès le début, gardé le meilleur pour la fin de sa création. Il a créé l'homme. Puis il a dit... Faisons, pluriel, l'homme à notre image, notre, pluriel. Faisons les, pluriel, à notre ressemblance. Faisons les, hommes et femmes. Fait que déjà en Adam, Ève était présente. Là, c'était là. Et Dieu a construit sur l'os. Dieu a réservé le summum de sa création pour la fin, pour le dernier jour. Pas le dernier jour de la semaine, mais le dernier jour de la création. Ensuite, il s'est reposé. Il a donné l'instinct aux animaux, mais à l'homme, il a donné son intelligence. On dit que l'être humain se sert en général de 10% de son cerveau, 10% de la capacité de notre cerveau. Avec 10%, regardez où l'être humain s'est rendu. Juste la technologie d'aujourd'hui, là, moi cette partie-là du cerveau, là, elle doit dormir. J'ai aucune notion technologique. Mais, il paraît que j'en ai pas besoin. Il y a du monde pour m'aider. Mais, il y a 100 ans, là, attendez une minute, en 1950, je pense que la télévision a été faite. Oui. Nous autres, on l'a eu en 52, notre première télévision noir et blanc, puis c'était comme « Wow! » Mais depuis ça, là, ça s'est multiplié de façon exponentielle, plus vite qu'on peut compter. Avec cette intelligence-là, Dieu nous a aussi donné le libre choix. Les animaux, ils n'ont pas le libre choix. Ils obéissent à leur instinct. Un arbre n'essaie pas d'être une fleur. Une girafe n'essaie pas d'être un éléphant. Ils obéissent à l'ordre de Dieu, par instinct. Mais l'homme, Dieu a dit, « Je veux qu'il m'aime de cœur. » Pas parce qu'il se sente obligé, parce qu'ils répondent à mon amour. Dans le choix, il nous donne la réponse. Si on va dans la parole, là, il dit, « Je mets aujourd'hui devant toi la malédiction et la bénédiction, choisis la bénédiction. La mort et la vie, choisis la vie. » No-brainer. On a la réponse. Si on fait un examen, quelqu'un nous donne la réponse, on est fou si on n'écrit pas la réponse qu'ils nous ont donnée. Ben, on est fou. Parce que moi, la première, je n'ai pas choisi la vie chaque jour de ma vie. J'ai choisi de désobéir. Malheur à moi. Je me suis fait malédiction. Puis je suis certaine que je ne suis pas toute seule. Mais ça, ça ne me regarde pas. Au commencement, Dieu choisit de donner la vie. Il ne la donne pas avec une corde attachée, puis « Hey, tu ne sais pas comment la vivre ta vie, moi la reprendre. » Non. Chaque personne a son cours de vie établi d'avance par Dieu. Nous autres, on ne le sait pas, mais lui, il sait. Mais Jésus, à Golgotha, a choisi de donner sa vie dans le but de mettre fin à la mort spirituelle une fois pour tous. Tous ceux qui en veulent l'ont à travers lui. Puis dans Luc 12, 5, Jésus dit, « N'ayez pas peur. » Il utilise le mot « peur » comme on a peur de se faire frapper par un autobus, on a peur de se casser la jambe, on a peur. Okay? « N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps et ensuite ne peuvent rien faire de plus. Craignez. » Ça, là, c'est pas avoir peur. C'est Dieu est redoutable. Dieu est tout-puissant. Dieu, il a tout créé par la puissance de son intelligence. Pour nous, il a fait ça pour nous. Tout ce qu'il a mis en branle, le ciel, les astres, les animaux, la verdure, tout, tout, tout pour notre bon plaisir. Juste ça, là, ça devrait nous inspirer une révérence tellement profonde par rapport à lui. Je suis qui pour qu'il ait fait tout ça pour moi? La parole, elle dit dans les psaumes, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu aies pensé à lui? » Mais Dieu, ça faisait un bon bout de temps, je pense, qu'il mijotait ça dans sa tête puis dans son cœur, de créer quelqu'un avec qui avoir une relation autre que lui-même. Parce que moi, là, je peux vivre dans mon appartement tout seul, puis je prends soin de moi. Mais me parler, c'est plate, là. Il y a pas de dialogue, il y a juste un monologue. Dieu a tout pondu parce qu'il veut être en relation. Il veut qu'on le connaisse. Qu'on apprenne qu'est-ce qui le motive. Qu'on apprenne qu'est-ce qu'il est capable de faire. Parce que, oui, on le sait ici, mais ici, on ne tremble pas. Parce que si on tremblerait, là, on serait autrement. On serait vraiment autrement. Moi, la première. Je suis capable de dire, sans fierté, là, que j'ai roulé ma bosse assez longtemps, puis je me suis pété la gueule, comme ils disent en bon québécois. Puis quand j'ai eu assez mal, j'ai crié à Dieu, puis il m'a pas dit, ben là, tu décides, puis là, je dois me plier puis aller te chercher. Non. C'est comme s'il était là, puis il a dit, tu sais, avant même que j'ouvre la bouche, il était là. Il m'a jamais laissé. Puis il m'a montré que dans sa grande miséricorde, dans son grand amour, il est venu jusque dans ma souillure s'asseoir à côté de moi. Je l'ai déjà dit et je le redirai toujours, jusqu'à temps que je réalise que j'étais dans le caca. Puis que j'avais besoin de quelqu'un pour me sortir de là parce que je n'étais pas capable moi-même. Merci Seigneur. Jésus, il dit, craignez plutôt celui qui, après avoir tué le corps, peut vous jeter en enfer. On ne se jette pas en enfer. Ben, notre comportement, si on choisit trop longtemps, peut nous jeter en enfer, là. Mais je veux dire, c'est pas nous autres qui décident, c'est Dieu. Il dit, comment qu'il a dit ça? J'endurcis qui je veux endurcir et je fais grâce à qui je veux faire grâce. En parlant du Pharaon. Puis Dieu a endurci le cœur du Pharaon, pas parce qu'il est méchant, parce qu'il voulait pas que le Pharaon puisse se péter les bretelles puis dire, c'est moi qui les ai laissés aller. Il voulait que son peuple sache que c'est par le bras de leur Dieu qu'ils sont sortis de l'esclavage. Pareil comme moi, quand je suis sorti de mon esclavage, c'est pas moi. Et donc, essayé par mes propres forces. L'orgueil nous garde dans nos propres forces. Je suis capable. Jusqu'à temps qu'on soit complètement épuisé puis qu'on dise, « Pas capable. Au secours. » Oui. Merci, Seigneur. Puis Jésus répète à la fin, « Oui, je vous le dis, craignez-le. Servez Dieu avec tremblement. » Pas trembler de peur, mais tellement vouloir faire ce qui est digne de recevoir, agir de façon honorable envers lui. Si quelqu'un d'importance nous inviterait pour un souper ou un thé ou whatever, là, et qu'on se mettrait sur notre 36. On se checkerait. Hey. Puis on le dirait, hey, un tel m'a invité. Si on regarde l'histoire d'Aman, quand Esther l'a invité, c'était comme, waouh, il l'a dit à sa famille, il se pomponnait. Il ne savait pas qu'est-ce qui l'attendait. Nous autres non plus, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend de la part de Dieu. Son amour, là, il nous le donne au compte-gouttes parce qu'on n'est pas capable de prendre plus que ça. Puis merci, Seigneur, que tu nous le donnes au compte-gouttes. Merci, Seigneur. Dieu nous respecte. Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, nous respecte. Puis nous autres, est-ce qu'on le respecte? Moi, je ne suis pas juge. Hein? J'ai déjà jugé. Dieu m'a repris. Il m'a dit, ton nom veut dire Dieu seul est ton juge. Puis tu n'as pas le droit de te juger, ni de juger les autres. Puis c'est plein dans la parole. Si vous jugez, vous allez être jugé avec la mesure avec laquelle tu juges. J'ai juste choisi 7 noms de Dieu. Puis malheureusement, j'ai oublié d'écrire qu'est-ce que le nom voulait dire, mais je pense que je suis pas pire. Corrige-moi, Seigneur, ou si vous le savez. El Elohim. C'est dans Genèse 1:1. El Ohim, c'est Dieu l'Éternel. Genèse 2:5. El Elyon, le Dieu très haut. Genèse 14:18-22. El Donai, Dieu qui suffit, il est autosuffisant et il suffit à nos besoins. Genèse 15:2. El Shaddai. Genèse 17:1-2. El Olam, l'ancien des jours. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il a toujours été là. Quel âge qu'il a? Genèse 21:33. Et Jéhovah Jiré, Genèse 22:14. Dieu pourvoira. Dieu qui pourvoit. Dieu qui a toujours pourvu, dès la création, on voit qu'il a pourvu pour nous autres à tout niveau. Maintenant, on peut dire que Dieu a mis la table en préparation pour le pain de ce jour. Aimez-vous ça, du pain sec? Ben, je parle pas des croustilles, là, je parle pas des biscottes, là. Un pain, une baguette sèche. Pas bon, hein? Un bon pain frais, chaud, moelleux, qui sort du four presque, avec du beurre. Ben, même tout seul, il est bon. Où est-ce qu'on peut aller chercher un bon pain? À la boulangerie? Oui. Mais il y a un pain plus frais que ce pain-là. Des baguettes, des pains belges, des ciabatta, tout est là. Pour toute langue, toute tribu, toute nation, à tous les goûts. Mais faut, pour qu'il soit frais, comme à la boulangerie, il faut y aller de bonne heure le matin à chaque jour. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus est le pain venu du ciel. Moi, là, la suite que Dieu a dans ses idées, là, ça m'épate. Jésus est le pain. Il est venu au monde dans une mangeoire, dans une ville qui s'appelle Bethléem, maison de paix, de pain. Dieu le savait quand, avant que je sois là, avant que vous soyez là. Avant que n'importe qui soit là. Il y a tellement de la suite dans ces idées, là, c'est... Ouh! J'espère qu'on va... Je m'embarque avec vous autres, là, parce que je sais que ce que je dis, là, c'est plus grand que moi. J'ai préparé, mais déjà, là, il a sorti de la page. Qu'on va savourer le pain frais qu'il nous a préparé pour aujourd'hui. Dieu se révèle. Hein? Il s'est révélé aux prophètes. Dans l'Ancien Testament, il visitait. Dieu visitait. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu a habité. C'est un testament d'habitation. David y parle. Puis David était la lignée par laquelle Jésus est venu. Okay? Il brûlait, il dit, je sais que je me devance là, mais il a dit à Nathan, moi je vis dans, il venait juste de finir son palais, je vis dans un palais de cèdre, puis l'arche de Dieu est placé dans une tente. Nous autres, on a pris habitation. Dieu est encore vagabond dans une tente. Je ne veux pas donner repos à mon corps tant que je ne construirai pas la maison. Une maison digne de Dieu. Puis Dieu lui a dit, c'est pas toi qui vas avoir ce privilège-là. C'est ton fils. Parce que toi, l'épée est dans ta maison. Je ne peux pas. Mais je vais te permettre de tout préparer. Je ne sais pas les montants d'or, là, et d'argent, et de bronze, et de que David a ramassé pour la construction du temple. Salomon, à la dédicace du temple, a offert 22 000 bœufs, 120 000 brebis. Il devait manquer de place pour les tuer. Je ne sais pas, là, mais me semble 120 000 brebis, ça a bien beau être grand le temple, là, puis les parvis, puis tout le kit. C'est un sacrifice. Hein? Et David voulait acheter un terrain. Ce qui est allé voir quelqu'un pour acheter son aire de battage. Puis la personne, je vais te le donner. C'était pour Dieu. Il voulait donner pour Dieu. David dit, non. J'offrirai rien à Dieu qui ne m'a rien coûté. Est-ce qu'on a ce cœur-là devant Dieu? Je me demande la question à moi-même. Là. Je ne suis pas en train de vous dire... Non. Est-ce que j'offre à Dieu une bête poquée ou est-ce que j'y offre les prémices de ce que j'ai? Quand je viens le rencontrer, est-ce que je me prépare d'avance? Seigneur, il y a des fois que j'arrive ici et ma préparation, elle se fait dans la petite chambre qui est là. Mais j'aime bien mieux quand la préparation se fait chez nous et que j'arrive dans la petite chambre. OK, Seigneur, là, je veux commencer à te louer ici. Puis, je vais être honnête avec vous autres, là. Cette chambre-là devrait être pleine. Parce que tout le monde a besoin de se préparer. Tout le monde. Puis, ceux qui sont déjà là, on n'est pas mieux. Mais on s'est fait tirer ses cordes du cœur. Puis, une fois que tu vois, que tu goûtes à la préparation de Dieu, t'es vendu. Ce matin, là, j'étais là, je suis sorti, j'ai dit à France, l'enlèvement a-tu eu lieu? Il n'y avait personne à part eux autres puis moi. Puis, j'ai dit, Seigneur, même si je prêche pour eux autres, c'est correct. Parce que c'est ton message. Tu sais à qui tu veux le donner. Bien correct, Seigneur. Elle a commencé à chanter les chants, puis j'étais comme, Seigneur. Puis tu en as réservé un que je ne savais pas que tu avais choisi. Puis, my goodness, j'ai dit, Seigneur, tu sais. Moi, je connais le Créateur du monde. Là, ce chant-là, il me fait plier les genoux à chaque fois parce que je le connais comme ça. Mais il me renverse à chaque fois qu'il se révèle. En anglais, il dit « I come undone whenever you show yourself ». Je viens décousu quand tu te présentes. Puis David a dit à sa femme « Je vais être encore moins... » Dignified, c'est quoi en français? Ouais, mais je vais être encore plus farfelu que ce que tu vois là pour Dieu. Parce que sa femme a dit, voyons donc, tes servantes te voient dévêtue puis agir comme un fou. Il dit, je vais être encore plus fou pour Dieu. On n'exprime pas le fond de notre cœur à Dieu. Moi, la première. Puis Dieu dit, ce que je veux, c'est l'intégrité au fond du cœur. Fait que si dans mon cœur, je suis triste, puis que je fais « Alléluia », ça pue pour Dieu, ça pue. Viens me rencontrer, je vais te libérer, puis tu vas être capable de me louer. Tu vas être libre. Jésus est mort pour cette liberté-là. C'est pas un reproche, c'est un encouragement. La préparation pour aujourd'hui, elle se fait tout le long de la semaine, à chaque matin, à manger le pain, puis à venir dimanche dire « Seigneur, encore une semaine que tu m'as donnée à vivre, puis que tu as pourvu pour tout, tout, tout pour moi. Merci. Merci, Seigneur. » Quand Moïse a dit « Fais-moi voir ta gloire, Seigneur », dans la version NIV, la réponse de Dieu, c'est « Il y a une place ici auprès de moi où tu pourras te tenir sur le rocher. » J'ai trouvé ça cute. Parce que Jésus est le rocher. Puis la parole a dit qu'il m'a placé sur un rocher trop haut pour moi. C'est lui. Dieu le dit, viens ici. Lorsque ma gloire passera, je te cacherai dans une crevasse du rocher. Jésus, son côté a été ouvert. Puis c'est là que son épouse est sortie, le sang et l'eau. Je te cacherai de ma main. Moi, je suis comme, ben voyons, Seigneur. Je te cacherai de ma main. Elle est grande, sa main, là. Je ne sais pas quelle grandeur qu'il y avait, Moïse. Mais Dieu a mis sa main, puis on ne voyait plus Moïse. Puis là, tu vas voir mon dos. Je suis certaine que juste ça, ça le saisit Moïse. Parce que quand Moïse allait sur la montagne parler avec Dieu, il brillait quand il descendait. Puis pour pas que le monde voit que ça diminue, il a mis un voile. Je pense que si Dieu posait son regard sur Moïse, là, ou sur un de nous, on serait consumés. Parce qu'on a du péché en nous. Hein? Ceux qui se disent qu'ils ne pêchent pas, là, désolé, vous vous mentez. Et Dieu ne peut pas tolérer le péché. Il nous voit à travers les lunettes du sang de Jésus. C'est pour ça qu'on n'est pas consumé. Mais avant Jésus, là, celui qui a voulu retenir l'arche de tomber à terre, mort, raide mort. Pourtant, son intention était bonne. Non. Non. Tu ne sauves pas Dieu. C'est l'inverse. Hein? Oh Seigneur. Ils disent que ses yeux sont comme les flammes de feu. Je suis certaine que ses yeux sont bleus. La plus chaude partie d'une flamme de feu est bleue. Peut-être que je me trompe. Peut-être pas. Puis, je me suis mis à penser, quand j'ai eu cette pensée-là, c'est peut-être le regard de Dieu qui a consumé le sacrifice au Mont Carmel. Ça, c'était spécial. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Mont Carmel. Dieu a demandé à Élie, son prophète, de confronter pas un prophète, pas 10 prophètes, 400 prophètes de Baal. Moi, là, un esprit, « Seigneur, as-tu quelqu'un d'autre de préparer? » Ça me tente pas de les voir, eux autres. Des fois, là, j'aurais à cœur de parler à quelqu'un, puis il y a quelqu'un que je connais qui pourrait se moquer de moi, puis je n'ai pas parlé. Je n'ai pas tremblé devant Dieu, j'ai tremblé devant l'homme. Élie y est allé. La grâce de Dieu était sur lui. C'était un temps de sécheresse. Ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas eu de pluie, presque 3 ans de pluie. Élie, il dit au prophète de Baal, « Venez-vous-en les boys, on va faire un sacrifice. Choisissez-vous un bœuf, moi je vais prendre l'autre. C'est vous qui choisissez le premier. Installez-vous sur l'autel. Moi je vais m'installer de mon bord. Puis le Dieu qui va consumer le sacrifice va être le Dieu. » Puis là, Élie, il fait quelque chose de vraiment comme pas rapport. Il y avait 4 cruches qui contenaient 75 à 115 litres. Il a dit, prenez des cruches, remplissez-les d'eau dans un temps de sécheresse. L'eau est précieuse. Fait que, versez-le. Ah, puis il avait fait une tranchée autour de l'autel. Versez-le sur le sacrifice sur l'autel. Refaites les dons. Encore une fois, 3 fois 4 cruches de 115 litres. C'est de l'eau. Ça coulait, ça le remplit la tranchée. Or, avant ça, les prophètes de Baal, ils ont crié à leur Dieu. Il se coupait, il dansait, il faisait toutes les simagrées. Élie dit, criez plus fort. Peut-être qu'ils sont partis en voyage, peut-être qu'ils sont concentrés sur quelque chose, peut-être qu'ils dorment. Bien, toute la journée, il y a voyé à faire, puis il dit, ça va-tu finir, ça va-tu finir? OK, c'est à mon tour. Puis c'est là qu'il a mis l'eau sur le sacrifice. Il a rebâti l'autel de Dieu. Il a pris 12 pierres pour représenter les tribus. Puis là, vous irez lire sa prière. Il a dit à Dieu, « Viens consumer le sacrifice qu'on t'offre pour leur montrer que c'est bien toi qui m'as envoyé ici. Glorifie-toi, Seigneur. » Dieu a consumé le sacrifice, l'eau, l'autel, l'eau qui était dans la tranchée, puis les pierres autour de l'autel. Fou! Je suis certaine que tout le monde était à pleine face à terre. Puis ça, c'est pas Dieu qui se manifeste visiblement, là. C'est Dieu qui montre sa puissance. Craignez-le, lui qui, après avoir pris vos vies, peut vous jeter en enfer. Les Israélites avaient toutes vu ces choses-là, puis ils se révoltaient quand même contre Dieu. Ils en ont vu des miracles. Puis dans le désert, Dieu a tué tous ceux qui étaient incrédules, qui étaient tièdes, nonchalants. Ils n'entreront pas dans mon repos. Moi, je ne veux pas entendre Dieu dire ça. Moi, c'est comme, Seigneur, comme David a dit, enlève-moi pas ton Saint-Esprit, laisse-moi pas à moi-même, Seigneur, s'il vous plaît. Moi, je veux entrer dans ton repos. Moi, je suis fatigué de ça ici, là. Fait que, la mesure de la crainte de Dieu que j'ai, c'est, Seigneur, je veux me préparer. Je veux être prête. Je veux que quand tu reviens, tu me trouves en train de faire ton œuvre. Puis que tu trouves la bonne mesure de foi en moi. Dieu désire qu'on le connaisse. Le mot connaître, en hébreu, c'est le même utilisé quand Adam connut Ève. Joseph ne connut pas Marie avant que Jésus naisse. C'est le mot qui... veut dire la relation physique entre un époux et une épouse. Dieu sait de quoi on est fait. Il connaît nos limites. Lui qui est infiniment grand, il sait qu'on est infiniment vulnérable, fragile, petit. Mais il prend plaisir à nous. J'ai hâte d'y parler. Je dis, qui m'explique toutes mes questions, là? Oh, j'ai hâte. Comme j'ai dit tantôt, Dieu nous fait grâce en se révélant au compte-gouttes. Quand on a des plantes, puis que la terre est sèche, puis qu'on met un verre d'eau, la terre, elle flotte sur l'eau. Si vous avez des plantes puis que vous les laissez aller comme moi, des fois je le fais. Je suis certaine que vous autres, vous n'êtes pas de même. Mais la terre, elle flotte. L'eau ne pénètre pas. Mais si on prend un arrosoir puis on en met sur le dessus, oh, ça repose, puis là, la terre, elle boit ça. Oh, un autre petit coup. Puis là, on est capable d'arroser parce que cette bruine-là a fait le chemin pour que l'eau puisse pénétrer. C'est le même avec nos cœurs secs. Dieu, il va au compte-gouttes. Il ne veut pas nous détruire. Il aurait toutes les raisons de le faire. Mais à cause de Jésus, à cause de son œuvre d'amour parfaite, il prend le compte-gouttes. Imaginez le peuple d'Israël, quand Dieu les a fait sortir d'Égypte, ils ont vu 10 plaies. Ils ont vu une armée qui les poursuivait. Ils ont vu une colonne de feu, une colonne de nuée. Puis là, pif, ils voient la mer. Mais voyons donc, on est cuit. Dieu fend la mer puis il traverse à sec. 2 millions de personnes traversent la mer à sec. Et je ne sais pas combien de soldats. Dieu a dit à Moïse, ceux que tu vois, tes ennemis que tu vois, après aujourd'hui, tu ne les verras plus. Ils sont morts noyés dans l'eau. Il y en a qui disent que à l'époque où ils sont traversés, la mer Rouge, il y avait juste 2 pouces d'eau. Bien, déjà là, c'est un miracle. Ils se sont noyés dans 2 pouces d'eau, toute une armée. Hein? Parce qu'ils trouvent des roues de chariot, des roues en or. J'ai vu un programme la semaine passée, un documentaire. Ils les ont nourris dans le désert. Leur linge ne s'usait pas, leurs souliers ne s'usaient pas, leurs pieds ne s'enflaient pas. Ils étaient sous le jugement de Dieu, là. Mais même dans son jugement, Dieu est miséricordieux. Il ne veut pas détruire son peuple. Il veut le corriger. Il veut le redresser. Leur dresser, redresser. Je crois que Dieu est à l'œuvre de cette façon-là dans nos vies présentement. Il nous secoue. Il nous brasse. Il vient choquer notre pensée pour nous révéler notre cœur. Parce qu'il veut qu'on voit. Lui, il sait qu'est-ce qui est dans notre cœur. Dans Deutéronome, je pense que c'est 11, il dit, « Je t'ai fait marcher 40 ans dans le désert pour connaître ton cœur. » Là, je me suis dit, « Pourquoi il veut connaître? » Je dis, « Non, Dieu connaît tout. » Fait qu'il connaît leur cœur. Il veut qu'eux autres connaissent l'état de leur cœur. Fait que quand on est dans un désert, Seigneur, montre-moi mon cœur. Montre-moi mon cœur. Moi, c'est ce que je dis à Dieu de ce temps-ci, parce que je sais qu'on est dans un désert. Puis ce que je vois, Seigneur, encourage-moi. Puis la parole qu'il m'a donnée, c'est la parole qu'il a donnée à Pierre. Satan t'a réclamé pour te cribler, Daniel, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille. est l'initiateur et celui qui amène notre foi à l'accomplissement, à la perfection, à la maturité. Je me souviens, il y avait quelqu'un qui avait dit, « Dieu, il sait exactement ce que vous vivez. Il l'a vécu avant vous autres, parce qu'il a tout vécu, tentation, douleur, etc. » Puis j'étais dans une pièce avec mon mari, puis j'y parlais, puis c'était pareil comme s'il était en Europe. Il n'était pas là. En tout cas, pour moi, il n'était pas là. Puis là, je me suis enfermé avec le Seigneur. Là, tu n'as jamais été marié, montre-moi où tu as vécu ça. Il m'a renversé, là. Une semaine après, je vois une pièce de théâtre, le fabricant le jouait, puis dans la pièce, Jésus est crucifié. Puis il y a c'est des danseurs, des mimes qui jouent la pièce. Puis Jésus est là, eux autres font le mur, puis le Père est ici. Puis quand ils ont crucifié Jésus, là, chaque geste, chaque expression de douleur que Jésus faisait, le Père faisait la même chose. Le Père ne pouvait pas encourager Jésus. Il ne pouvait pas le sauver. Ils ont choisi qu'il passe par là. C'était pour nous autres, pour notre bien. Mais Jésus, sa communion avec le Père était parfaite. Mais là, il était séparé. C'était comme s'il n'était pas là. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'était tellement réel pour lui. Ah, j'ai dit, « Seigneur, Dieu a eu miséricorde de moi. Il voulait que je sache qu'il me comprenait. Il m'a donné cet exemple-là. » J'ai dit, « T'es mon bestest. Je vais toujours aller à toi quand je veux savoir. Yes, Lord. Merci, Seigneur. » Dieu a... Je ne pourrais pas finir, là, mais ce n'est pas grave. J'irai où j'irai, puis Dieu continuera. Dans l'attente de la rencontre, Dieu a établi une ordre. Il a donné un modèle à Moïse. Puis, quand tout était fini, Dieu n'est pas rentré dans le temple, bing bang, dans la tente. Il est descendu dans la nuée, puis c'est comme si... De la nuée, il a observé si les choses étaient mises en place selon son ordre. Puis je crois que c'est ça que Dieu fait dans notre vie. Dieu veut un cœur entièrement voué à lui. Un cœur, il dit, mets ta maison en ordre. Ma maison, c'est mon cœur. L'ordre, c'est l'ordre de Dieu. Comment tu veux mon cœur, Seigneur? Où tu veux le piano, où tu veux le divan, où tu veux le lit, c'est ta maison, Seigneur. Change ce que tu veux, débarrasse-toi de ce que tu veux, me voici. Je ne l'ai pas toujours, cette attitude-là. Là. Je résiste et je chiale et je rue dans les brancards et je suis tout à fait humaine, mais mon cœur désire que Dieu fasse sa demeure en moi. Désir qui prenne plaisir à habiter mon cœur. Pas juste habiter parce qu'il a besoin de m'aider. Non. Qui trouve les rideaux beaux, les cadres beaux, tout à son goût. Quand Dieu a vu que tout était en place, la gloire est descendue. Dieu est descendu dans toute sa gloire. Personne n'était capable de rentrer dans la tente. Les prêtres étaient à pleine face à terre. Ils n'étaient pas capables de faire le ministère. Dieu veut une église glorieuse. Puis il dit, sans tache ni ride, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, terrible comme le soleil? Non. brillant comme le soleil, terrible comme une armée sous sa bannière. Avez-vous vu le Seigneur des Anneaux? Il y a une scène où les méchants entourent le château du roi, puis ils ont leur bannière, puis c'est des monstres du diable, là, mais tu tremblerais juste à les entendre. Ils criaient, puis ils piochaient à terre avec leur bannière ou leur épée. Mais Dieu, il dit, ça, là, c'est pas à la mesure de mon armée. Personne n'a vu mon armée encore. Ça fait 2000 ans que, je vais finir avec ça, ça fait 2000 ans que le diable met toute son énergie, sa vigueur, ses pensées à détruire la lumière de Dieu en nous. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que Dieu la garde. Dieu, c'est un Dieu jaloux, puis il ne donnera pas sa gloire à aucun autre. Mais il veut nous la donner. On a besoin de se préparer. On a besoin d'avoir soif et faim que Dieu vienne déposer sa gloire en nous. Parce que Dieu veut, il dit, lève-toi, car ta lumière paraît. Quand Dieu va mettre la gloire dans son Église, là, il y a du monde qui vont dire que ça, c'est mon armée. Tasse-toi, Ticlin, on s'en vient. C'est ça que Dieu va dire à l'ennemi, parce que... Puis l'ennemi, il met tout son gros paquet, là, parce qu'il veut nous amener le plus avec lui qu'il peut, parce qu'il veut continuer à tourmenter. Il sait où ce qu'il s'en va, lui. Hein? Puis il veut continuer son fun. Il sait qu'il n'a pas pour longtemps. Mais Dieu n'a pas révélé son armée encore. Puis la Sulamite dans le jardin, là, elle parle, Dieu dit, tu es une fontaine scellée, un jardin clos. Tout le temps que Dieu travaille dans nos vies, on a de l'air des ticlins. On a de l'air des deux pics. Hein? C'est comme une maison qui est barricadé pour faire les fondations, là, on ne voit rien, on ne voit pas ce qui se passe en dedans. Mais quand il enlève les formes, on voit l'ouvrage. Quand Dieu va ouvrir la barrière, là, quand il va desceller le puits, la fontaine, hey boy, who's that? L'armée de l'Éternel, les saints de Dieu. Ceux qui se sont laissés cuisiner dans la mijoteuse de Dieu pendant des années. Dieu a du monde là, caché, qui n'ont jamais rien fait à part prier. Ben, ils ont fait de quoi? Mais je veux dire, personne n'a vu leur face. Mais un jour, Dieu va les faire sortir de leur closet. Satan, il fait sortir les LGBTQ, là. Puis, oh, ils ont une audace. Mais l'armée de Dieu qui a été dans le closet puis qu'elle va sortir, là, checkez l'audace. Le feu de Dieu, les deux témoins vont être capables de détruire par le feu de leur bouche ceux qui essayent de leur faire du mal. C'est pas prouvé, mais ils disent que les deux témoins, c'est l'Église et Israël. Moi, je veux pas être là. Je ne veux pas rester, mais je crois que ceux qui croient en Jésus dans les derniers temps, qui vont être là pour la tribulation, ils vont être une mesure protégée par Dieu, là, je crois. Mais eux autres aussi, ils vont pouvoir, je pense qu'ils font partie des deux témoins, là. Le peuple d'Israël qui va être sauvé, puis le peuple de les... En tout cas, c'est pas là où je voulais en venir. Là. Puis je veux pas partir des discussions théologiques. Ça, c'est mon imagination qui bouillonne. Mais le feu de Dieu va nous habiter. Il dit je serai pour eux une muraille de feu et ma gloire les remplira, les habitera. C'est l'Église, ça. Dieu va nous protéger. Puis quand on veut enlever des couches sur un arbre, ils font ça avec le feu. Fait qu'on est la plantation de Dieu. Il prend son feu pour nous purifier et puis après ça, nous remplir de sa gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta grande générosité, Seigneur, pour l'extravagance de ton amour. Merci que tu gardes le silence dans ton amour, Seigneur. Tu nous corriges, oui, mais il y a tant d'amour dans ta correction. Tu nous fais fléchir par ton amour, Seigneur. Mais Seigneur, donne-nous cette soif et cette faim d'avoir la relation que tu veux avoir avec nous, de répondre à cet appel. Donne-nous, Seigneur, le désir d'une intimité profonde avec notre Créateur, avec notre bien-aimé, avec toi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci que tu parles à nos cœurs avec tellement de tendresse, d'amour, de douceur. Même tes jugements, Seigneur, sont doux, parce que tu veux nous sauver. Tu veux nous protéger. La crainte de l'Éternel, c'est une protection pour nous. Merci, Seigneur. Seigneur, remplis-nous de la crainte de ta personne. Ce profond respect, cette révérence, ce tremblement, parce qu'on veut répondre d'une façon digne à ton amour, à ta générosité. Amen. Merci.